mardi 21 mars 2023 dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Une classe de CM2 de l'école du Schlutfeld à Strasbourg-Neudorf a terminé son cursus scolaire lié à la lutte contre l'antisémitisme à l'espace égalité de Strasbourg. Les élèves guidés par l'ASTU, Action citoyenne interculturelle, se sont rendus en novembre 2022 au musée judéo-alsacien de Buxwiller et dans la ville sur les traces de la vie juive en milieu rural, puis ont visité la synagogue et le temple protestant de la Méno, ainsi que la grande mosquée de Strasbourg. Et pour finir, ils ont travaillé sur l'affaire Dreyfus en réalisant une frise chronologique. Florence Guillon, l'enseignante des élèves de CM2.
Lorsque la situ est venue intervenir, je crois que Maxime leur a simplement raconté l'histoire. Il leur a donné les éléments de la frise dans le désordre. Puis il leur a dit qu'on allait parler d'un personnage et lié avec l'antisémitisme. Et puis après, ils ont commencé à ordonner la frise chronologique. Et ensuite, pour aller plus en avant dans l'histoire et mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire, ils avaient donc des planches de BD qu'il fallait qu'ils associent avec les différentes dates. Voilà, ils ont très vite compris ce qui se passait et ils sont vite rentrés dans cette histoire. Après, peut-être... C'est vrai que c'est une histoire peut-être complexe, mais cette question de la trahison, voilà, c'est quand même quelque chose qui les attire, qui les intéresse.
Maxime, médiateur animateur au sein de l'ASTU sur les actions des élèves.
Alors à l'espace égalité, aujourd'hui, les enfants, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont avoir tout un parcours qui fera suite à cet atelier-là autour de l'antisémitisme et des cultures communes aux trois grandes religions monothéistes qui sera après ça. Et là, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que suite à une séance qu'ils ont déjà eue en classe autour de l'affaire Dreyfus, où ils ont eux-mêmes recomposé la frise historique, à partir d'une bande dessinée sur l'affaire, ils ont eux-mêmes remis dans l'ordre l'histoire, bah là, ils vont devoir finalement jouer les avocats d'Alfred Dreyfus pour prouver son innocence et on va un petit peu changer l'histoire à la fin. Alors on le dit pas encore là, je vous le dis parce qu'ils n'entendent pas, mais on va déclarer Alfred Dreyfus innocent aujourd'hui. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, bah, ce genre de procès n'a pas lieu d'être en 2023 et qu'aujourd'hui, bah, ce genre de procès à charge antisémite, bâclé et avec des preuves complètement fabriquées, bah, n'aurait pas lieu d'être en France. Voilà.
C'est aujourd'hui la journée internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est pas un hasard, je suppose.
Non, c'est pas un hasard. C'est pour ça qu'on a tout préparé effectivement pour être là pour cette journée aujourd'hui. C'est vrai que ça nous paraissait important de marquer le coup et c'est quelque chose qu'on expliquera aux enfants après, cette journée et la symbolique qu'elle peut avoir, parce que même si c'est vrai que pour eux ça n'a peut-être pas une portée ultra importante, pour nous en tant qu'association interculturelle qui lutte contre toute forme de discrimination, c'était important de marquer le coup sur cette journée-là dans un endroit comme l'espace égalité qui est un lieu de lutte contre toutes les formes de discrimination, d'autant plus pour l'ASTU qui est une association fondatrice de cet espace.
Les élèves à tour de rôle à la barre d'un tribunal sont les avocats d'Alfred Dreyfus.
Pourquoi donc Alfred Dreyfus aurait-il copié sa propre écriture ? Nous avons démonté toutes les preuves et aucune ne conclut. Pendant ce temps, le vrai coupable court toujours et il continuera de courir.
Le capitaine Dreyfus n'aurait jamais connu une aussi grande faute.
C'est pas sûr que c'est lui. Ça ne peut pas être lui car il supporte la France. Vous avez accusé une personne innocente et vous avez créé de fausses preuves comme le... Borderon.
Vous aviez accusé Alfred Dreyfus car il est juif. C'est pas sûr que c'est lui. Ça peut pas être lui car il supporte la France.
Un capitaine de guerre ne trahirait jamais son pays. Au contraire, il l'aiderait. Le fait qu'il soit juif ne le changera rien, juste pour les antisémites. Et pense avoir reconnu quelqu'un par son écriture n'est pas une preuve.
Bonjour mes chers compatriotes français. Aujourd'hui, je dois vous parler de Édouard Drummond. Ce journaliste antisémite n'est qu'un traître. Je l'oblige à aller en prison. C'est une honte française !
Vous avez accusé Alfred Dreyfus d'avoir espionné l'armée française. C'est inadmissible.
Mais ils se sont dit que c'était le coupable parfait car il était juif.
Alfred Dreyfus n'est peut-être pas coupable.
Qui sait, peut-être que le vrai coupable a la même écriture que Alfred Dreyfus et qu'il est en train de courir.
Qui sait, peut-être qu'on l'a obligé d'écrire ce bordereau et qu'il ne veut pas avouer parce qu'on va le tuer.
Alfred Dreyfus est parti quand l'Alsace est devenue allemande et il est parti pour ne pas être allemand. Il est clairement innocent car il n'aurait jamais pu s'allier avec l'Allemagne. C'est un chef de guerre et il ne peut pas être contre son pays.
Vous avez accusé Alfred Dreyfus d'avoir espionné l'armée française, malgré qu'il n'a rien fait.
Christine Panzer, présidente de l'ASTU, sur l'absence de l'enseignement du judaïsme en tant que religion.
Alors effectivement, la question de l'histoire des religions ou le regard croisé sur les religions est quelque chose qu'il faut absolument développer dans le cadre de notamment de l'enseignement et de l'approche de la laïcité pour pouvoir découvrir de façon objective les différents aspects des religions. C'est ce qu'on a aussi essayé de faire dans ce projet. C'est un autre aspect du projet que les classes ont pu faire. Et d'autre part, on se rend compte que peut-être il y a des petits aspects à développer, ou des grands aspects à développer par rapport à notre approche de l'histoire pour être un peu plus inclusif par rapport à la grande diversité. Et par exemple, en ce qui concerne la présence juive en Alsace ou dans l'histoire en général, puisque malheureusement, la question les enfants dans le programme scolaire rencontrent la question juive au moment de la Shoah, un moment particulièrement violent d'histoire qui est essentiel certainement dans l'enseignement. Mais il y a beaucoup de choses à dire avant, notamment aussi sur la cohabitation qui a pu y avoir en Alsace particulièrement entre des communautés dans les villages et puis les apports des uns et des autres. Et donc on a aussi un travail là-dessus dans notre frise où on a montré un petit peu aussi, on a essayé de constituer un peu un hall of fame par rapport à des personnalités d'origine juive qui ont marqué l'histoire et la culture et tout ça. Et donc ça a été aussi un énorme travail pour nous, pour l'ASTU, pour les gens, les adultes impliqués dans ce projet de découverte et de revisite. On a revisité un petit peu des aspects méconnus et donc on a été très contents de faire ce travail-là. Il a été enrichissant énormément.
Le parcours se poursuit avec un jeu où les enfants classent des cartes illustrées d'objets, de symboles, des trois principaux cultes monothéistes. Il s'agit pour eux de les mettre dans la case islam, judaïsme ou christianisme ou une case commune.
Donc avec les trois religions, judaïsme, islam et christianisme. Et la règle du jeu, c'est effectivement de mettre les cartes sur les religions.
Oui, il y a les couleurs.
Islam, donc effectivement, là c'est l'étoile de David, très bien. Et après, effectivement, le jeu peut devenir plus subtil. Il y a aussi des cartes communes ici, aux trois religions. Adam, il se mettrait où ?
Adam,
oui. Exactement, très bien. Donc on va le mettre au centre. Effectivement, là c'est Noé, c'est l'arche de Noé, Adam, Moïse, exactement. Et c'est quel symbole, c'est quelle religion ?
Mais je mets où ? Il n'y a pas de place.
Tu te souviens, en fait,
ça
vous n'avez pas le droit de toucher les livres. Donc ils utilisent cet instrument pour...
Carême.
C'est quoi ça, alors ?
Carême, c'est la bas.
C'est là. Jérusalem. Yanis, il met Jérusalem ici. Moi, je le mettrais.
Chrétien, c'est toi, là. Au milieu.
Attends, Ève, voici.
C'est la ville de naissance des trois.
Exactement. Ça veut dire amour en arabe.
Ça, c'est quoi ?
Mohamed, très bien.
Si on l'a vu,
c'est une étoile que mettent les... Exactement.
Ah oui,
ça s'appelle un talit, exactement. C'est même Fatma.
Ah, c'est ici. Mais non, c'est là.
Ça peut être aussi, éventuellement, moi je peux le mettre au centre.
Ça, c'est ici.
Ce sera un symbole commun entre religions.
Qu'est-ce qui a mis samedi, là, n'importe comment, là ? C'est quoi, samedi, ça va où ? On l'a fait, ça, les jours ?
C'est dans
les
juifs.
C'est juif ?
C'est quoi ce carême, c'est là, je crois.
Ça, c'est la croix huguenote, c'est les protestants.
Mais Marie, ça va ici.
C'est avec les chrétiens. Carême, c'est... Ça, c'est quoi, ça ? Pour les autres qui savent...
Les tombes ?
Oui, c'est les tables de la loi. Et c'est qui les avait ?
C'est juif.
Moïse.
Et vous vous souvenez, la pasteur, elle vous avait expliqué
oui,
au niveau de sa tenue,
voilà,
que non, mais par rapport aux tables
que
de
c'est
la
deux,
loi,
voilà.
Que le fait qu'il y ait les deux
petits blancs
là,
blanc.
Ça faisait référence aux tables,
aux tables
de la loi.
Loi. Exactement. Elle irait où, Marie ?
Elle est là.
Chez les chrétiens. On peut l'avoir chez les musulmans également, mais à un autre prénom. Myriam, exactement. Mohamed, non, c'est le prophète. Alors, Yahvé, je vais vous aider. Yahvé, en fait, c'est le nom de Dieu chez les juifs. Même s'ils n'ont pas le droit de le prononcer.
Non, ça, c'est Hanouka.
Les juifs, exactement.
Hanouka,
c'est une fête juive.
Myriam,
oui, on peut le mettre au milieu, effectivement. Mais c'est le prénom de Marie chez les musulmans. Et ça, c'est un symbole commun qui serait aux trois religions, c'est l'arbre de vie.
Dans un autre atelier, retour sur les personnages illustres juifs, strasbourgeois ou alsaciens. Et pour commencer, de la sémantique.
Sémites, c'est le nom de peuples qui sont d'origine sémite. Alors c'est très très ancien, très très ancien. Et il y a par exemple aussi des langues sémitiques. Alors est-ce que vous connaissez des langues sémitiques? Ça vous dit quelque chose?
Non.
L'hébreu, tu as raison. Et puis
l'arabe.
L'arabe, tout à fait. Quelle est la langue la plus ancienne, à votre avis?
L'hébreu.
Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot isme? Enfin, le suffixe isme? Non, c'est une façon de penser. Est-ce que ce suffixe, vous le retrouvez dans d'autres mots ici? Oui.
Racisme, nazisme.
Nazisme, très bien. Et puis là, tiens, on va prendre celui-là aussi, antisémitisme. Très bien. Le racisme, ça a commencé quand?
Quel racisme?
Depuis toujours, à peu près.
L'antisémitisme, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps?
Oui.
Oui, tout à fait, depuis très très longtemps. Aussi. Le nazisme?
Il n'y a pas très longtemps, en 1939.
Et le nazisme est une idéologie qui éclot surtout au XXe siècle, en Allemagne, dans les années 30 et dans les années 20. Alors, qui est victime de racisme et d'antisémitisme? Vous l'avez vu tout à l'heure.
Alfred Dreyfus.
Oui. Et à côté, vous avez pensé?
Sa femme.
Tout à fait. C'était non seulement sa femme, mais c'était aussi quelqu'un qui l'a vraiment soutenu tout au long de sa vie, qui a fait énormément de choses pour qu'il ne perde pas courage. Et puis aussi pour aller chercher des contacts avec des journalistes qui vont dire un peu autre chose sur son mari. Et son avocat, et le journaliste, Zola. Il y a d'autres personnes là en bas. Qui c'est que vous reconnaissez?
Il y a un mime, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Marcel Marceau?
Alors d'abord, il faut que je vous dise que toutes les personnes qui sont là, elles ont un petit point commun. C'est qu'elles ont une relation avec l'Alsace, Strasbourg. Alors Marcel Marceau, Marceau, c'est un nom de code qu'il a pris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était tout jeune quand la guerre a commencé en 1939. Il est d'une famille juive et en 1939, les choses se sont un peu compliquées pour lui. Est-ce que les personnes d'origine juive pouvaient vivre tranquillement en France à partir de 1940 quand l'Allemagne avait gagné cette première partie de la guerre?
Non, parce que l'Allemagne, elle a demandé à la France de regrouper des juifs.
Il risquait d'être regroupé avec eux et envoyé dans un camp.
Je crois qu'il s'est caché.
Il a pris un faux nom, il s'est caché, il n'a pas dit qu'il était juif. Et comme ça, il a pu survivre après ces terribles événements. Alors, je vais juste vous montrer ces deux personnes-là, c'est un couple. Ils étaient mariés, ils étaient instituteurs dans la vie. Ils s'appellent Agnoer, c'est monsieur et madame Agnoer. Et eux ont ouvert une maison d'enfants à Sèvres et ils ont caché plein d'enfants. Et Marcel Marceau a pu se cacher chez eux. Lui était juif, d'origine juive, alsacienne. Elle était d'origine bretonne. Et lui, il a dû se cacher à la fin parce qu'il était en danger aussi. Mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à cacher plus de 500 enfants. Et alors, on utilisait des noms de code. Et lui, son nom de code, c'était Pingouin. Et elle, c'était Goéland. Et il était d'origine juive et d'origine alsacienne. Sa famille vient d'un village qui s'appelle Westhofen, qui se trouve non loin de Strasbourg. Et c'est encore comme Dreyfus, la famille, elle a choisi la France en 1870. Et donc, ils sont partis à Paris.
Et l'évocation de Léon Blum.
Alors, lui aussi, il a subi l'antisémitisme. D'accord? Beaucoup. Parce qu'on lui reprochait d'être juif. Il était dans le camp des Dreyfusards. Et donc, plus d'une fois, il a été attaqué, même physiquement. Mais il est devenu président d'un gouvernement de 1936 qui a fait beaucoup de choses. Et c'est grâce à ce gouvernement, par exemple, qu'il y a des congés payés, qu'il y a une semaine de 40 heures, et qu'eux aussi, il y a eu les trois premières femmes au gouvernement qui n'ont jamais été nommées dans un gouvernement, alors qu'elles n'avaient pas encore le droit de voter. Et lui aussi, en 1940, il a été arrêté parce qu'il était juif, et il s'est retrouvé dans un camp. Il a survécu à la guerre, donc il a pu revenir.
Dans une scénographie composée d'une coque de bateau, les élèves sont mis en situation dans la peau de Sarah, forcée de partir avec l'arrivée des nazis.
Et puis un jour, la maman lui explique « Écoute Sarah, voilà, on va partir. On est obligé de partir, on ne peut pas rester ici parce que la vie va devenir vraiment très difficile pour nous. » Et donc Sarah est obligée de partir. Et donc le papa, il s'en va et se dit « J'ai des amis à Strasbourg et donc on va aller à Strasbourg. » Et c'est comme ça qu'elle apprend le français, elle va à l'école à Strasbourg, le papa retrouve du travail, la maman aussi, et donc tout va bien. Et voilà qu'en 1939, Sarah reçoit encore une fois « Tous les habitants de Strasbourg doivent partir. On a 48 heures pour faire nos bagages. Sarah, il faut que tu fasses ton sac. »
Les élèves ont réagi à la sortie de cette expérience immersive.
J'ai bien aimé la façon dont on est en train de voyager. C'était vraiment, on dirait, dans la vraie vie, on était en train de voyager. C'était bien, j'ai aimé.
Enfin, j'ai bien aimé quand on parlait
des histoires des anciens personnages.
Moi aussi, j'ai bien aimé quand on voyageait, tout ça.
J'ai adoré les tribunaux parce que j'ai trouvé ça bien de défendre Alfred Dreyfus.
Moi, j'ai beaucoup aimé le début avec le tribunal. C'était intéressant de se mettre à la place des avocats. Les ateliers, c'était super bien parce qu'on a pu voir plein de choses en peu de temps. Et surtout, quand on s'est mis à la place de Sarah, c'était amusant parce que je savais vraiment pas qu'il y avait un bateau derrière des bouts de tissu. Donc, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré.
Moi, j'ai aimé tous les ateliers et surtout celui de Sarah parce qu'on s'est mis à la place de quelqu'un qui fuit la guerre et que c'est un peu triste.
Les ateliers étaient intéressants. On a aussi appris quelques noms de personnages si on ne savait pas. L'histoire de Sarah, c'était bien parce que c'était des choses cachées aussi.
Moi, je trouve les ateliers, c'était cool en vrai. On s'amusait bien, on prenait des rôles de personnages, on faisait semblant de s'enfuir. Moi, je trouve que c'était bien.
Les ateliers, c'était très bien. On a appris beaucoup de choses. Au début, j'ai pas trop compris quand on devait se mettre dans la peau d'un avocat. Mais sinon, c'était très bien.
Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on passe deux fois sur d'autres personnages, qu'on reste pas nous-mêmes. Pour quand on a fait les avocats, quand on a écrit les textes, quand on s'est fait passer pour Sarah sur le bateau et le jeu qu'on a fait avec les religions, je trouve que c'était bien.
Moi, j'ai bien aimé le jeu avec les cartes pour les religions car on a classé tout dans le bon ordre.
J'ai appris des nouveaux mots que je ne savais pas. Par exemple, je sais pas, islamophobie, des trucs comme ça.
J'ai appris à connaître des nouveaux personnages que je ne connaissais pas.
Ouais, Léon Blum.
Merci.
L'espace égalité de Strasbourg se situe rue Pestalozzi dans l'annexe de l'école élémentaire du Conseil des 15.